Construire un monde plus humain, ça commence par nous. Avec le Crédit Coopératif, ensemble, nous avons ce pouvoir. Le pouvoir du nous.
Que veulent ces marginaux ?
Ils font ça en signe de protestation. Ils veulent changer le monde.
Changer le monde ? Quelle drôle d'idée ! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts.
Le boycott ?
Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus.
C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir.
Ouais, ouais.
Ça commence par moi, l'émission.
Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur Rage. Moi c'est Julien, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur rage.fr, Spotify ou encore iTunes. Et aujourd'hui, on va explorer le sujet de la déconnexion de l'être humain avec la nature, un lien qui se délite et qu'il est urgent de recréer pour favoriser le vivant dans son ensemble. Et dans le domaine, c'est vrai que nous sommes face à une véritable montagne, c'est bien simple. Les scientifiques parlent désormais de sixième extinction. Et Loïc sait que ce sont les êtres humains qui en sont responsables. Plus de 100 espèces disparaissent chaque jour et si nous ne faisons rien, la ressource en poissons de la région Asie-Pacifique sera épuisée d'ici 30 ans. Et en Afrique, ce sont plus de la moitié des espèces d'oiseaux et de mammifères qui seront perdues d'ici 2100. Ça fait froid dans l'eau. Heureusement, il existe plein de pistes pour y remédier. Pour discuter de ces enjeux, nous accueillerons François Letourneux, président de la Fête de la Nature. Mais avant d'accueillir notre invité, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine, car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent.
Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est du côté de la Suède que ça se passe, c'est souvent le cas d'ailleurs, avec le sentiment de flagscam, littéralement la honte de prendre l'avion, qui se répand dans tout le pays. De plus en plus de voyageurs suédois décident donc de ne plus prendre l'avion pour éviter de contribuer au dérèglement climatique et sont en revanche fiers de prendre le train, quitte à perdre un peu, voire beaucoup de temps. Une démarche qui pose la question du vrai coût des choses, notamment au niveau environnemental, quand on sait que le transport aérien représente déjà 2 à 3% des émissions mondiales de CO2 et que leur impact sur le climat est en moyenne 15 fois plus important que celui du train. En espérant que le monde entier suive cette tendance inspirée du slow travel pour voyager moins, mais mieux. Et allez, j'accueille tout de suite François Letourneux, président de la Fête de la Nature. Bonjour François.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
En pleine forme. La Fête de la Nature, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ?
La Fête de la Nature, c'est une occasion de se rasseoir l'arbre. C'est une occasion de recommencer à avoir un contact physique et amical avec la nature. On mène tous une vie d'urbain, hein. On quitte les couloirs ou le volant pour les écrans, et même les gens qui vivent à la campagne ne la regardent plus, ne vivent plus avec elle. Alors comment voulez-vous qu'on s'y intéresse si on n'a plus de contact ?
Donc on remet la nature au cœur.
Donc on s'est dit, quand je dis on, c'est l'ensemble des organismes publics et privés de conservation de la nature, on s'est dit on organise des journées portes ouvertes pour des gens qui de toutes les façons sont convaincus et qui viennent compter les orchidées avec nous. C'est important, mais c'est encore plus important qu'on s'intéresse à ceux qui ne savent même pas qu'on existe. Et par conséquent, une fois par an, on va dire que la nature, c'est pas une catastrophe épouvantable, c'est pas seulement une catastrophe épouvantable, c'est pas des menaces terribles du type de celles que vous venez de décrire, c'est aussi une occasion de bonheur. Et on a décidé de le faire à l'échelle de toute la France, tous ensemble, pour que ça ait un peu d'ambiance. Et on le fait autour du 22 mai, parce que le 22 mai, c'est la journée mondiale de la biodiversité et que c'est pas si mal. Alors voilà, cette année, on compte sur 5000 manifestations au moins, on compte sur 800 000 personnes, un peu partout. Ça sera gratuit, ça sera dans la nature et ça sera pas triste.
On se retrouve donc du 22 mai au 26 mai pour fêter la nature partout en France.
Partout en France.
À quoi ça ressemble une manifestation de fête de la nature ?
On a un problème avec les médias, parce que on réunit 800 000 personnes, mais on les réunit en 5 ou 6 000 groupes de 10, 20, 30 personnes. Alors c'est pas très spectaculaire, mais on est ravis que ça soit pas spectaculaire, parce qu'on pense qu'il n'y a pas que les choses spectaculaires qui marchent bien. Voilà, donc on va avoir des tas de petits groupes qui vont apprendre qu'il y a des plantes qui se mangent et les goûter, Découvrir que les chauves-souris crient toutes de manière différente parce que on les munira d'un appareil qui transforme les ultrasons des chauves-souris en sons audibles, qui plongeront une épuisette dans l'eau sans être emmerdés par les parents qui leur diront qu'ils risquent de tomber, pour trouver, pour regarder à la loupe binoculaire avec un spécialiste tout ce qui grouille dans la mare. Voilà. Enfin, on va avoir des aventures de nature très très élémentaires, et puis on boira un coup.
Vous dites, voilà, c'est beaucoup de réunions avec peu de personnes, mais finalement, cette intimité, elle favorise le lien avec la nature, non ?
Elle est indispensable. Les lanceurs d'alerte sont eux aussi indispensables. Vous avez raison de souligner que la biodiversité va mal, et si la biodiversité va mal, on va très mal. Hein. Mais en revanche, c'est un défaut, les lanceurs d'alerte, c'est que c'est démobilisant. Donc, vous le savez mieux que personne, avec ce que vous avez fait compte tenu de ce que vous avez fait jusqu'à présent, chacun peut se bouger un tout petit peu et au moins regarder ce qui se passe autour de lui et essayer de corriger ce qu'il peut.
Et la fête de la nature, elle existe depuis 2006, donc pas mal d'éditions. Avec
ouais, 13e édition.
Des moments forts, j'imagine, des dernières années.
On monte progressivement, gentiment, en nombre de participants. Et on est très content parce que cette année, il y aura des choses nouvelles. Il y aura notamment un gros effort d'un certain nombre d'associations pour mobiliser, pour que les gens ouvrent leur jardin, pour qu'ils soient fiers de la part de biodiversité qu'ils laissent vivre dans leur jardin, ou même quelquefois pour les meilleurs, qu'ils favorisent dans leur jardin. Si déjà ils tondent pas la pelouse partout et qu'ils laissent quelques bancs d'herbe, ils pourront montrer à tout le monde qu'il se passe des choses là-dedans. Et voilà. Et donc ça, c'est important pour nous que ça soit pas seulement une affaire d'institution, de grandes muséum, de l'ONF. C'est important que les grandes entreprises mobilisent leur personnel pour travailler sur la biodiversité. Ça nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse le plus, peut-être, c'est que chacun puisse être fier de ce qu'il fait. C'est que le jardinier municipal qui fait que du géranium, ou du moins dont on pense qu'il fait que du géranium, et ben il puisse emmener une fois dans l'année le maire et les habitants de sa commune voir la ruche qu'il a installée derrière le compost. Et montrer que depuis qu'il n'utilise pas de pesticides, il a quand même des belles fleurs.
Et c'est ça le principe de la fête de la nature, voilà. C'est que tout le monde peut proposer une activité.
Voilà, tout le monde peut proposer une activité pratiquement jusqu'au dernier moment. Si on veut être sur le site, si on veut avoir le relais de la presse, etc., il vaut mieux le dire à l'avance. On aide tous ceux qui le veulent à organiser leurs manifestations. Il y a des aides techniques, des formulaires, etc. Et on a un site vivant, actif, qui permettra d'ailleurs à tous ceux qui auront envie d'aller se promener ce jour-là, de retrouver toutes les manifestations qui se passent près de chez eux.
Et ben, profitons pour le donner, ce site, c'est fêtedelanature.com, tout simplement.
Tout simplement, tout attaché.
Et là, on se retrouve avec une carte, un planning.
On se retrouve avec plein de choses, des entrées par spécialité, des entrées par carte. On peut se géolocaliser. Quelquefois, il faut s'inscrire. Quelquefois, y a des manifestations qui sont signalées, parce qu'elles sont importantes pour nous, et auxquelles on ne peut pas s'inscrire. Par exemple, on est fiers et heureux de travailler beaucoup avec l'administration pénitentiaire, parce qu'on avait une idée derrière la tête quand même, il y a 13 ans, on se disait, après tout, c'est surtout pour les gens les plus privés de nature qu'il faut qu'on travaille, pas ceux qui se privent de nature. C'est bête de se priver de nature quand on pourrait aller dedans. Mais ça, chacun est libre. En revanche, il y a des gens qui sont privés de nature, et les détenus font partie des gens qui sont privés de nature. Et donc, cette année, il y aura plusieurs dizaines de manifestations organisées pour les détenus. Et elles ne seront pas forcément ouvertes à tout le monde. Certaines d'entre elles le seront, mais d'autres pas. Et on les signale quand même parce que quand on a l'occasion de faire une sortie familiale, quand on est détenu et qu'on a la possibilité de faire une sortie familiale dans la nature pendant une journée, on pense que c'est pas seulement bon pour la nature.
C'est sûr, aussi. En fait, c'est bon pour nous aussi qui sommes partie de la nature.
Et ben voilà, voilà. Donc, on l'appelle fête de la nature parce que la biodiversité, ça fait cuistre. Mais la nature, c'est pas plus simple. Il faudrait parler de la fête du vivant, mais là, personne ne comprendrait. Parce que on n'est pas dans l'opposition ancienne culture-nature, on n'est pas en train de regarder la nature, même si on a tout fait au néolithique pour se trouver dans cette situation. On est dedans jusqu'au cou. Et en fin de compte, ce qui est en train d'arriver à la diversité sur Terre n'a aucune importance pour la planète. La planète s'en sortira très bien, elle s'est sortie des précédentes crises, elle se sortira très bien de cette crise-ci. C'est nous qui n'en sortirons pas. Donc on est dedans jusqu'au cou. On est d'ailleurs, vous êtes un individu de l'espèce Homo sapiens sapiens, moi aussi. Mais on est quand même composé d'autant de cellules non humaines que de cellules humaines. Donc on est aussi un écosystème, on n'est pas seulement un individu tout seul. On est déjà dans le vivant jusqu'au cou à cause de notre microbiote, de toutes les bactéries qu'on trimballe dans notre intestin et sur notre peau. Donc on est dans le vivant jusqu'au cou.
Et là, François, vous nous mettez dans la deuxième partie de l'émission jusqu'au cou avant de rentrer dans cette partie passionnante, parce que moi j'aime prendre du recul, j'aime aborder effectivement ces sujets de l'environnement, du vivant qui sont passionnantes et qui déterminent notre avenir, effectivement, et pas celui de la planète qui s'occupait très bien toute seule quand nous n'étions pas là. Je voulais juste revenir sur le fait que, quand même, pour terminer, la fête de la nature, oui, elle est à l'initiative de plein de personnes qui peuvent proposer des ateliers, mais c'est aussi un rassemblement de plein d'associations et de plein d'entreprises qui veulent s'unir. Et ça, je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'il y avait cet espace collaboratif.
Oui, alors on est parti à deux sur cette affaire-là au départ. Il y avait l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, le comité français, qui réunit l'ensemble des organismes publics et privés qui s'occupent de nature et de biodiversité. Donc, j'ai cité tout à l'heure le muséum, l'office des forêts, on peut citer les communes, naturellement, les régions, les grandes associations, France Nature Environnement, la LPO, l'Office pour les insectes et leur environnement, enfin j'en passe et des meilleurs, une quarantaine d'associations et une dizaine d'organismes publics en France, l'UICN. Et puis, il y avait une revue qui s'appelle Terre Sauvage et qui avait envie aussi qu'on parle de nature. Et donc, on s'est dit, on va unir nos forces pour montrer d'abord qu'il y a de la nature extraordinaire, que cette nature extraordinaire, elle est quelquefois tout près de chez soi, dans le fossé au bord de la route ou dans le jardin, qu'il y a des professionnels qui peuvent vous la montrer, parce que je crois que vous êtes montagnard et on sait bien que quand on emmène des gens, ils ne voient pas les chamois. Donc il faut leur montrer. Et c'est normal, ils n'ont pas été habitués à ça. Donc c'est utile que des professionnels montrent qu'ils se consacrent à la nature, que c'est intéressant et qu'on peut y prendre goût. Et nous, ce qu'on se dit, c'est quand on s'est assis une fois dans l'herbe dans l'année, on peut peut-être espérer qu'on se rassoira une ou deux fois. Et ça serait déjà très bien.
C'est même sûr. Et donc du coup, un beau moment, une belle énergie qui va s'en dégager de cette fête de la nature. Je vous y invite encore une fois, le site internet c'est fêtedelanature.com, on s'aère l'esprit en musique. Et François, vous êtes venu avec une chanson, laquelle ?
Oui, de mon âge.
Ce petit chemin.
Le petit chemin qui sent la noisette.
Oh là là, ça donne envie. Allez, c'est Mireille.
Petit chemin qui sent la noisette, oh ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous. Ils donnent leur fête, les lapins nous invitent. Souris-moi, courons vite, ne crains rien. Prends ma main dans ce petit chemin qui sent la noisette. Oh, ce petit chemin m'a tourné la tête. T'as posé trois baisers sur mes cheveux frisés et puis sur ma figure toute barbouillée de murs. Pour nous observer, des milliers de bêtes s'étaient installées par-dessus nos têtes. Mais un lièvre au passage nous a dit: soyez sages, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin.
Ah, et comme ça, on n'en fait plus. Quel plaisir. Merci François pour cet excellent choix. On est de retour dans Ça commence par moi, l'émission. Et nous sommes avec François Letourneux, le président de la Fête de la Nature. On a parlé de la Fête de la Nature, on a parlé de tous ces sujets. On va prendre un peu de distance et je ne peux pas m'empêcher quand même de prendre de la hauteur et de revenir sur cet effondrement terrible de la biodiversité auquel on est en train d'assister. Le rapport Planète Vivante, publié par WWF en 2018, il est vraiment accablant. On a 60% des effets effectif des animaux vertébrés qui ont disparu en 40 ans. On a le déclin des animaux d'eau douce qui atteint même 83% sous le coup de la surexploitation. On a près de 20% de la forêt amazonienne qui a disparu en 50 ans. Enfin, mis bout à bout, c'est quand même quelque chose qui montre qu'on est en train là d'être dans une extinction de masse qui est comme la dernière extinction de masse, mais à l'époque provoquée par un astéroïde. Là, l'astéroïde, c'est nous. Comment on a pu en arriver là ?
C'est bien parce que ça s'est fait progressivement qu'on l'a pas vu venir. Parce que c'est encore plus inquiétant que ce que vous dites. On s'est longtemps focalisé sur les espèces les plus menacées et sur les espaces les plus précieux. On les a protégés. Alors, ça veut dire qu'en France, il disparaît pas d'espèces animales ni végétales. Il a disparu une violette en Normandie, mais il est revenu des tas d'espèces puisqu'on a réintroduit des vautours, que le loup est revenu tout seul sur ses petites pattes, qu'on vient de réintroduire le bouquetin des Pyrénées. Bref, on a l'impression, si on regarde simplement le catalogue des espèces, que tout va bien. Or, en fait, d'abord, tout va mal en mer, ensuite, tout va mal dans les Outre-mer. Et en France, c'est pas la disparition d'espèces qui nous fait peur actuellement, c'est l'effritement total du tissu vivant de la planète dont on fait partie. C'est-à-dire la réduction par deux du nombre d'oiseaux communs. Pendant que les cigognes sont multipliées par quatre, que les grues sont de plus en plus nombreuses, que les rapaces sont partout, eh bien, les petits oiseaux, les petits oiseaux des champs, les alouettes, elles ont perdu 60% en 30 ans. De leurs effectifs. Alors on en voit encore, on en entend encore chanter, pour ceux qui savent ce que c'est. Mais celles qu'on entend chanter sont de plus en plus rares, et bientôt, cette année, j'ai pas entendu de l'Orio dans mon jardin pour la première fois, peut-être qu'il reviendra l'année prochaine, espérons-le. Mais les causes chez nous, en France, on le sait bien, c'est majoritairement l'absence de nourriture liée à la disparition des insectes. La disparition des insectes, elle est due au fait que certaines personnes utilisent un truc qui s'appelle des insecticides. Quand on fait un parricide, on tue son père. Quand on fait un insecticide, quand on utilise un insecticide, c'est pour démolir les insectes. Et la forme qu'a pris l'agriculture, qui est, Dieu merci, en train de changer, la forme qu'a pris l'agriculture depuis 50 ans est gravement responsable de cette disparition des insectes, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas fait exprès, puisqu'ils ont utilisé des insecticides. Bon, puis il n'y a plus d'insectes à manger, il n'y a plus d'oiseaux.
Je laisse un petit blanc, histoire de vraiment installer le malaise, parce qu'on assiste de temps en temps dans l'histoire à des événements qui réussissent à susciter l'émoi au niveau mondial. On a dans l'histoire proche de nous les fameuses tours du World Trade Center qui s'effondrent, et là, le monde entier qui s'arrête de respirer. On a encore plus proche de nous le toit de la cathédrale Notre-Dame qui vient de partir en fumée, et là, tout d'un coup, on assiste à un élan de générosité, de solidarité, une capacité à se dire « mais on ne peut pas laisser faire ça ». Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir ce même élan sur la protection du vivant, qui est pourtant une cathédrale Notre-Dame puissance infinie ?
Très, très bonne question. Je pense que tout le monde a sa responsabilité. Je pense que nous, protecteurs de la nature, avons notre responsabilité aussi. D'autre part, je pense qu'il y a aussi des signes encourageants. Avant que Notre-Dame ne flambe, il y a eu un renouveau d'intérêt pour le patrimoine bâti en France. Il y a eu une campagne, il y a eu une tombola, il y a eu des choses comme ça. Donc on s'est intéressé au patrimoine, ça n'a pas empêché Notre-Dame de brûler. On est convaincus que l'arrêt des pesticides dans les jardins publics des villes, dans tous les jardins publics des villes, c'est une avancée, elle est réelle, elle est probablement insuffisante. On aimerait plus de courage sur le glyphosate, parce que détruire les plantes, c'est détruire également la nourriture, le gîte, le couvert, enfin, etc. Et puis, chacun d'entre nous peut changer de comportement. On peut décider de ne plus acheter de saloperies, de ne plus acheter de nourriture produite dans les conditions d'agriculture intensive dont je parlais, de manger plus précieuse, plus précisément, mais de manger bio.
Et comment alors on fait pour passer de cet intérêt mou, quand même, que je qualifierais d'intérêt mou, à un intérêt d'une urgence presque comme une urgence de guerre.
L'urgence, je pense qu'il vaut mieux agir solidement et de manière résolue que de se dire de toutes les façons ça va arriver trop tard. On est vraiment très 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 nombreux, hein. On est 7 milliards et demi, on devrait être 5 millions. Un gros mammifère omnivore dans l'histoire du vivant sur Terre, tous les autres gros mammifères omnivores qui ont occupé des grosses surfaces, je sais pas moi, l'ours brun qui est présent dans tout l'hémisphère nord, au top de sa forme, il y en avait 2 millions 2. Il y avait 2 millions 200 000 ours, on estime. Bon. Nous, on est 7 milliards et demi. On était 5 millions il y a 15 000 ans. Mmh. On était 5 millions, puis on a fait une grosse bêtise, on a inventé l'agriculture. Et en inventant l'agriculture, on est devenu extrêmement nombreux, on pouvait se nourrir facilement, on est devenu extrêmement nombreux, et en inventant l'agriculture, on a décidé que la nature, c'était compliqué et emmerdant, et qu'il fallait s'en débarrasser, qu'il fallait s'occuper de ce qui nous intéressait, les animaux qu'on élevait et les plantes qu'on cultivait, et que le reste, c'était des ennemis et qu'il fallait lutter contre eux, nous garder notre champ contre les ennemis. C'est encore comme ça qu'on travaille dans un certain nombre de régions du monde. Mais sauf que nos armes, comme dans les autres modes de guerre, nos armes ont fait des progrès considérables. Et elles sont devenues de nature à faire, non pas à nous faire gagner, mais à faire perdre l'adversaire complètement et à nettoyer le terrain. On est comme Gengis Khan, on arrive, on brûle toutes les villes, on fait des pyramides de crânes et on dit ça y est, j'ai gagné. Ben non, on n'a pas gagné. Alexandre le Grand, il partait sur l'Indus et dans chaque village, il mariait ses filles avec les seigneurs locaux et il se faisait des amis partout où il passait. Et son empire a rien eu à voir avec celui de Gengis Khan. Il faut choisir notre méthode de relation à la nature. Voilà, donc si la population devait continuer à croître au rythme où elle croît actuellement indéfiniment, je serais extrêmement pessimiste. Mais la population va se stabiliser. Le tout, c'est qu'on s'y mette tous pour éviter que la situation ne soit irrécupérable avant cette stabilisation qui devrait se produire autour de la fin du siècle, autour de 9 milliards ou 10 milliards d'humains. Et je pense que notre objectif, il est clair. Comment faire en sorte que l'ensemble du vivant se porte le mieux possible, dont nous, se porte le mieux possible dans 100 ans, avec 10 milliards d'hommes qui n'utilisent plus de produits laitaux, qui s'occupent de leur environnement, qui prennent soin aussi accidentellement de leur flore intestinale parce que leur santé en dépend, qui comprennent que tout ça est lié et qu'une solution simple est forcément mauvaise.
Mais à quel moment, alors, on a désappris que tout ça était lié? Vous le dites, il y a 15 000 ans.
Il y a 10 000 ans, entre 7 et 10 000, moins 10 000.
Allez,
moins 10
000. Il y a 10 000 ans. 10 000.
L'apparition de l'agriculture. Fourchette. C'est quand on a choisi de se couper.
Mais donc, en fait, on met au cœur le vivant, au cœur de notre mode de vie, parce que finalement, on se rend compte qu'on peut le contrôler, qu'on peut le dévier dans notre sens, et à la fois, on le...
On a oublié que c'était du vivant. Ouais. Non, c'est devenu... On a chosifié. On a chosifié les animaux en les abattant dans les conditions dans lesquelles on les abat maintenant. On considère le blé comme un sous-produit d'une activité brutale dans laquelle plus on a de quintaux, quoi qu'il y ait dans les remorques, plus on a de quintaux, plus on est content. Les intolérances au gluten qui touchent de plus en plus de monde, elles tiennent au fait que les blés avec lesquels on fait le pain maintenant n'ont pas le même genre de gluten que celui qu'il y avait avant. Et on aurait dû faire attention à ça, parce que sinon on va vers effectivement des problèmes qu'on aura ensuite à régler. Mais je pense que les signes positifs, ils sont tout autour de nous quand même. Dans certaines villes, on encourage les gens à cultiver trois légumes ou trois fleurs devant chez eux. Quand on voit dans de plus en plus de villages les paniers avec les légumes à prendre au moment du surcroît de production pour éviter de se trouver avec 15 jours à 15 jours à bouffer des haricots verts sans arrêt parce que c'est le moment où ils sont à leur bon, voilà. Ça va avec les AMAP, ça va avec l'entraide, ça va avec la solidarité, ça va avec la curiosité. Tous les agriculteurs bio, ils disent la même chose. Ils disent « qu'est-ce que c'est compliqué par rapport au système simple du bidon jaune le lundi et du bidon vert le mercredi ?» Que c'est compliqué, mais que c'est passionnant, on refait notre métier. Et vous avez plutôt des agriculteurs bio enthousiastes, c'est pas eux qui sont désespérés par leur situation et par la honte, parce que c'est désolant d'en arriver à ce que des gens aient honte du travail qu'ils font.
Donc ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que ce lien au vivant, il passe par une acceptation du fait de vouloir arrêter de simplifier la vie, arrêter de vouloir le confort à tout prix.
Oui.
Oui, mais faut recréer de la complexité.
Oui, il faut prendre le goût de la complexité. Et c'est important parce que tout notre rapport au réel, on l'a fabriqué sur cette logique de la simplification. La science analytique, c'est ça. Et on se rend compte maintenant, et vous avez parlé de sciences citoyennes dans d'autres de vos émissions, vous avez parlé de ces choses-là, eh bien, on se rend compte que pour comprendre le réel, il faut une vision holistique, il faut une vision... La biodiversité, c'est pas une collection d'espèces immobiles. Ça bouge dans le temps. On n'est pas les mêmes que ce qu'on était, nous, humains. On n'est pas les mêmes que ce qu'on était il y a 30 000 ans. Et ça bouge dans le temps et ça bouge dans l'espace. Et puis surtout, c'est un faisceau de relations.
C'est interconnecté,
entre les
êtres. C'est ça.
C'est complètement interconnecté. La biodiversité, c'est d'abord des relations. Donc voilà, faut qu'on comprenne ça. Et si c'est d'abord des relations et si d'abord on est interconnecté, ça veut dire qu'il faut réintroduire de la curiosité parce que les choses ne sont pas simples. C'est pas parce qu'on aura remplacé, enfin, quand les gens disent qu'il faut remplacer une molécule par une autre, c'est une stupidité. Il faut remplacer une molécule par une manière plus intelligente d'aborder le deal qu'on a avec le reste du vivant. Oui, en Camargue, on a un deal avec les moustiques. On a intérêt à avoir un deal avec les moustiques parce que on a décidé de ne pas démoustiquer la Camargue au moment où on démoustiquait le Languedoc-Roussillon pour pouvoir le développer. Donc on a un deal avec les moustiques, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où les moustiques deviennent insupportables. Et à ce moment-là, il faut réfléchir. On ne peut pas appliquer, on peut pas mettre d'insecticides chimiques quand les moustiques sont insupportables. Il faut inventer un système intégré. Ça peut être le bacille de Thuringe, qui est un micro-organisme qui s'attaque à la larve du moustique pendant 3 jours. Ça peut être aussi une manière de gérer ses espaces, une manière de concevoir sa moustiquaire. Et on peut apprendre à vivre avec le vivant en ayant une vie un peu plus compliquée, oui, mais en même temps un peu plus riche et un peu plus complexe.
Et ce que vous faites avec la fête de la nature, c'est que plutôt que de proposer tout de suite de passer à l'action, c'est aussi de proposer aux citoyens d'être spectateurs de cette nature pour aussi constater sa beauté, peut-être.
Oui, c'est vrai, mais notre rêve, c'est quand même que dans ces balades qu'ils font sur le terrain, ils se rendent compte que c'est pas venu tout seul. C'est-à-dire que il y a des gens qui s'en sont occupés, il y a des gens qui se sont occupés que ça reste comme ça, ou il y a des gens qui peuvent leur expliquer en quoi le fait que la mairie n'ait pas fauché les bords de route de la même façon que d'habitude, mais ait attendu le mois de juin pour le faire, ça change tout quant aux sauterelles et aux criquets. Qu'il y ait des gens pour leur montrer qu'il faut agir. Oui, parce qu'il faut agir. Toute verdure en plus dans une ville, c'est des degrés en moins l'été, dans la canicule, c'est une vie incroyable dans le sol, autour des arbres, sur les balcons et sur les terrasses, c'est une agriculture urbaine et des jardins partagés qui sont en train de se développer un peu partout, c'est du bonheur. Donc c'est le changement climatique, tout ce qu'on nous propose pour lutter contre le changement climatique, c'est de nous restreindre. Bon, ça peut avoir des valeurs de se restreindre, mais tout ce qu'on nous propose pour encourager lutter contre la perte de biodiversité, c'est que du bonheur. Bien manger, voir des belles choses et avoir notre conscience pour nous parce qu'on aura évité la disparition du vivant qui nous entoure. Donc ça vaut le coup.
Ouais, c'est un moins mais mieux intéressant. Ben mais oui. C'est aussi cette capacité à se satisfaire de la gratuité de la beauté de la nature. Oui. Là, j'étais chez mes parents qui habitent donc en montagne il y a quelques semaines et à regarder les oiseaux dans les arbres, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'espèces que je n'avais jamais vues parce que j'avais jamais pris le temps de les regarder. Et c'était magnifique, ces espèces.
Et on a la première fête de la nature, donc en 2006. On va recommencer cette année, faut venir. On a emmené les journalistes le premier jour, on est parti à pied du Muséum d'Histoire Naturelle, on est allé dans un cinéma, à l'époque on allait encore dans les cinémas pour la fête de la nature, on est allé dans un cinéma dans le 9e. On a vu ou entendu 42 espèces d'oiseaux, on a expliqué aux gens qu'on a emmenés qu'on avait croisé 42 espèces, soit qu'on les ait vues, soit qu'on les ait entendues chanter. Parce que les ornithologues, ils les voient rarement, ils les entendent souvent, ils les voient rarement, ils les reconnaissent au chant. Mais ça a été une surprise totale. On a emmené un autre groupe l'année dernière, on a emmené un groupe de partenaires d'une entreprise voir des libellules dans une mare. On arrive, il n'y avait pas de libellules. Qu'à cela ne tienne. On avait toutes les mues des libellules qui étaient accrochées aux roseaux. Donc on a montré comment on connaissait la présence des libellules sans qu'elles soient là. C'est le type d'invitation à la curiosité qui fait qu'ensuite les gens vous en reparlent.
Ça donne envie. Et c'est la fête de la culture du 22.
Nature.
La fête de la nature, et eh oui, mais culture, c'est
la même chose. Voilà.
La fête de la nature du 22 au 26 mai 2019. C'est partout en France. Je vous redonne le site. C'est fête.
En France, un peu en Suisse, un peu. Ça y est, c'est en train de partir pour l'Europe.
Dans les pays francophones et dans toute l'Europe. Génial. Fête de la nature.
Oui, .com.
Fête
de la nature tout attaché. .com. Merci à vous.
Et voilà, ça commence par moi l'émission, c'est terminé. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie, de vous avoir donné de nouvelles pistes à explorer pour faire de 2019 l'année de l'éco-citoyenneté, mais aussi l'année, on l'a bien dit, de la reconnexion avec le vivant dans sa globalité, un vivant dont nous faisons terriblement partie. Merci à Raphaël aux manettes, merci à Raj pour son soutien. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, je vous donne rendez-vous sur raj.fr, sur Spotify et sur iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux et je vous dis à la semaine prochaine. Salut !
Construire un monde plus humain, ça commence par nous. Avec le Crédit Coopératif, ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.